des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Jean-François Lisée.
On va juste dire qu'on est d'accord.
Thomas Mulcair.
Je te donne 100% raison.
La rencontre.
C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
La rencontre. Lisée. Mulcair.
Alors, Jean-François, je viens de parler au ministre Jean-François Roberge et il m'a dit Trudeau fait une erreur monumentale en nommant Mme El Gawabi, mais Justin Trudeau, ce n'est pas le Canada. Donc, il fait une différence entre le gouvernement de Justin Trudeau, qui semble être fermé au Québec, et le Canada, qui, lui, je sais pas, est prêt à discuter avec nous. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, je pense qu'il... ce n'est pas faux sur les faits, mais il prend un peu ses désirs pour des réalités. Et lorsqu'il dit quand on fait un gain, on le garde puis on avance, ben justement, ce que M. Trudeau et M. Poilievre et M. Singh veulent, c'est que la Cour suprême enlève un gain au Québec, c'est-à-dire la capacité d'utiliser la clause dérogatoire à des fins préventives, ce que le Québec a fait beaucoup plus que n'importe quelle autre province. Donc, il est bien possible que pendant le mandat de M. Roberge, ben, on recule. Et puis, vous savez, la Cour suprême, une fois qu'elle a décidé, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de cour d'appel pour la Cour suprême. En fait, le seul appel fait le peuple québécois pour l'indépendance. Alors, l'idée qu'on fait des gains puis on les garde, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Je pense pas qu'on va faire un deuxième trou dans le rocher canadien, dans le bouclier canadien. Alors, je trouve d'un optimisme qui manque de lucidité. Voilà.
Alors, Tom, tu écris aujourd'hui dans The Gazette que c'est pas la bonne personne à la bonne place, Madame El Gawabi. Je suis curieux, Tom, comment c'est perçu ton point de vue dans la communauté anglophone? Parce qu'on a l'impression que la communauté anglophone fait bloc autour de Justin Trudeau et appuie la nomination de Madame El Gawabi. Est-ce que c'est vrai, ça?
Lundi après-midi, j'ai un hit à la radio de CJD tous les après-midi et tu entendais le silence assourdissant à l'autre bout du fil quand je dis non, c'est une erreur de la nommer. Non, mais la loi 21, ben, je dis, il n'y a personne qui a écrit plus de critiques de la loi 21 que moi, mais elle n'est pas une personne qui peut occuper cette fonction-là parce qu'elle, à mon point de vue, est en train de démontrer ses préjugés dans ce qu'elle a écrit, notamment dans le Ottawa Citizen. Et si le but, c'est d'avoir quelqu'un pour bâtir des ponts et lutter contre les préjugés, ben, ça peut pas être elle. Ils m'ont donné la chance de le dire, mais ça a vraiment surpris. Et là, le lendemain, je me suis dit, OK, là, je vais faire mon papier, parce que le papier qui est dans la Gazette d'aujourd'hui, il était en ligne hier après-midi, il faut les rendre tôt, c'est la nouvelle réalité. Et je me suis dit, je vais l'expliquer. Je vais expliquer pourquoi. Puis c'est rare, mais je commence en me justifiant, tu sais, en un peu sur la défensive. Ben, j'ai fait ça et ça pour lutter pour et avec et pour défendre la communauté musulmane. J'ai eu telle reconnaissance des groupes et je me suis battu contre Harper pour telle raison. Je dis pourquoi je prends du temps pour vous dire ça parce que ça risque de vous surprendre ce que je vais dire maintenant. Si elle peut pas occuper cette fonction là. Et c'est le collègue, maintenant collègue Gaétan Barrette, qui en onde hier a dit quelque chose de suave à la joute. Il dit, regarde, as-tu vu le petit sourire narquois? Tu sais, le petit sourire de Trudeau, là, tu sais, breveté, là, quand il disait, je l'appuie à 100%, puis il est en train de faire quoi? Tu sais, c'était son moment, just watch me. Il est en train, et Emmanuel Latraverse, on en a parlé, dit la même chose. Il est en train de jouer ça pour une galerie autre que le Québec et il pensait pas que ça allait lui coûter. Il se disait, c'est une large communauté qui va reconnaître en moi la personne qui les défend à travers elle et il n'y aura pas de coût à ça. Mais il commence à avoir un coût pour Trudeau parce que ce soit Mario Dumont aujourd'hui ou Emmanuel hier, les gens commencent à dire un instant là, toi qui critiquais Stephen Harper de jouer des jeux partisans politiques autour de la religion, t'es en train de faire pareil.
Je vais aller voir Jean-François parce qu'il doit quitter bientôt. Jean-François, rapidement, qu'est-ce que tu penses de la position de Québec solidaire?
Ah ben ça, c'est extraordinaire parce que donc il y avait cette motion qui a été déposée par la CAQ demandant que l'Assemblée unanimement demande le retrait de Mme El-Gawabi. Et d'habitude, lorsqu'une motion est proposée, n'importe quel député peut refuser l'unanimité pour qu'elle soit adoptée. Alors, ils n'ont pas refusé, mais ils ont demandé le vote nominal. Alors là, ça oblige chaque député à se lever un par un pour dire s'ils sont pour, contre ou ils s'abstiennent. Et donc là, ils ont forcé à ce que tout le monde voit qu'ils s'abstenaient un après l'autre. Ça, c'est incompréhensible parce que ça attire l'attention sur leur indécision. Fait que là, tu as deux partis d'opposition qui est donc les libéraux qui s'étaient complètement emmêlés dans leur lacet la veille, puis là tu as Québec solidaire qui attire l'attention sur leur indécision et sur leur refus de se solidariser avec une réaction très très forte. Écoute, c'est tellement unanime au Québec que même Tom Mulcair est contre. Alors.
Donc, on voit, Jean-François, qu'ils sont très mal à l'aise avec tout ce qui est identitaire à Québec solidaire.
Et sais-tu pourquoi? C'est vrai en soi. Normalement, ils auraient voté contre la motion parce que eux, ils veulent discuter avec elle pour savoir si elle est qualifiée. Mais c'est parce que leur congrès s'en vient. Le congrès de QS s'en vient. Et on sait qu'à l'intérieur du Congrès, c'est la dernière fois qu'ils sont réunis, ils ont dissous le collectif pro-laïcité au sein de QS. Alors, il y a des forces qui sont très favorables à Mme El-Gawabi. Ève Torres, d'ailleurs, c'est
ben oui.
Le jour dernier, est intervenue en faveur d'El-Gawabi. Et le député Haroun Bouazi, sa première réaction, c'était de dénoncer la CAQ qui en faisait un cas. Alors, c'est clair qu'au sein de Québec solidaire, c'est pas du tout facile à passer que on critique Mme El-Gawabi.
Tout à fait. Est-ce que je dois te laisser aller, Jean-François?
Eh oui,
OK.
Eh oui.
Ben écoute, on se reparle demain. Merci beaucoup. Tom, je veux à tout prix que tu me parles de la Caisse de dépôt. Tu m'as envoyé un texte ce matin qui est fort intéressant sur la Caisse de dépôt parce que c'est eux autres qui gèrent notre argent, notre bas de laine. Puis c'est assez inquiétant, hein?
C'est assez important. Mais je vais juste me permettre, puisqu'on est tous les deux, puis maintenant on peut enfin parler. Non, blague à part, je pense que Jean-François avait raison dans une bonne partie de son analyse. Mais en ce qui concerne le fait que Québec solidaire a décidé de s'abstenir, j'ajouterais une chose. Québec solidaire est en train de compléter la job de la CAQ vis-à-vis du Parti libéral. Je m'explique. La CAQ parle avec des fédéralistes, avec un brin de nationalisme, et obtient leur vote. C'est pour ça que dans beaucoup de circonscriptions à l'extérieur de Montréal, les libéraux sont rendus avec 5% du vote. Mais la job est en train d'être complétée par Québec solidaire, parce que Québec solidaire, depuis un bon 6 mois, sinon un an, a un discours qui emprunte à un discours traditionnel du Parti libéral, ouverture vers les communautés culturelles, les nouveaux arrivants, la critique très très solide de Gabriel Nadeau-Dubois contre, par exemple, Jean Boulet pendant la campagne, c'est lui qui était très structuré, il était ciblé, et tu sentais que c'était un électorat qui visait et qui fait partie de leur giron. Regarde maintenant le 12e élément. Le 12e élément, c'est le 12e siège dont Québec solidaire a besoin pour être pleinement reconnu comme un parti. C'est Sainte-Marie-Sainte-Anne, Saint-Henri-Sainte-Anne, pardon. Saint-Henri-Sainte-Anne, qui était la circonscription de Dominique Anglade. Ils la visent. Ils ont des très bonnes chances d'aller le chercher. Hier, en s'abstenant, c'est vrai qu'ils sortaient du lot, mais en plus, c'est logique dans ce qu'ils essayent de construire, c'est-à-dire d'aller chercher une partie de la base libérale dans la grande région de Montréal. Et c'est un peu sous cet angle-là que je le vois aussi. Pour ce qui est de nos amis à notre bas de laine nationale.
Écoute, il y a des trous dans notre bas de laine, là.
Il y a des trous dans notre bas de laine, mais il y a des coups de pied dans le derrière qui se perdent avec le pied qui porte le bas de laine avec des trous. Écoute, ils ont investi 200 millions de dollars dans une patente à gosse de crypto-monnaie aux États-Unis et la procureure qui était embauchée par le juge pour faire une analyse de ce truc-là a dit c'était géré comme un dépanneur. Et c'était tellement de la foutaise que ça crie, ça hurle. Il n'y a jamais eu de diligence raisonnable, ce qu'on appelle en anglais « the due diligence ». C'est une obligation quand tu es en train de dépenser ton argent avec des conseillers, mais c'est à plus forte raison une obligation quand tu es en train de dépenser l'argent des autres. Et il y a une chose qui me fascine, ce sont les salaires à la Caisse de dépôt et de placement.
Oui.
Investissement Québec et tutti quanti. T'sais, on a un premier ministre qui gagne un salaire de cadre moyen à travers le Canada au gouvernement. C'est ridicule comment le premier ministre du Québec, oui, notamment, est sous-payé. Et voilà que ces gens-là sont tous des millionnaires, des multimillionnaires, parce tellement qu'ils sont bons. Allô? Qu'est-ce qu'ils font là?
Écoute, Tom, moi, j'ai un conseiller financier personnel, OK, comme une certaine personne, puis des fois, je vais le voir, on se rend compte à son bureau, puis là, je regarde les résultats, puis là, en disant, on a perdu là mes placements, là, ça va pas très bien, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je lui demande des comptes, et puis là, il m'explique qu'est-ce qui s'est passé, mais à un moment donné, ils sont imputables, ils sont responsables, ils gèrent notre argent, puis là, on dirait qu'ils investissent dans des canards boiteux à haut risque.
Ben, écoute, je veux pas insister trop là-dessus parce que ça ramène toutes sortes d'autres discussions, mais l'époque, quand même, de Duplessis, l'époque de toi, tais-toi, ça, c'est le genre de personne qu'aime Legault, et ça, c'est le genre de personne qu'on on sent avec notre super Uber ministre de l'économie. Oui, il y a d'autres ministres, comme le ministre des Finances, Conseil du Trésor, mais entendons-nous bien, il y a un tandem qui colle toutes les shots de ce temps-ci. Il y a un fin détail. Tu sais, moi, comme toi, je commente, je regarde la nouvelle, mais des fois, là, c'est comme le système de justice qui tombe en morceaux. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais il y a un détail au cours des derniers mois qui m'a frappé. Ils ont fait un test avec des voitures du REM. Il y a eu des accidents. Il y en a un qui a arraché la station qui avait été construite. Il y en a un qui s'est arrêté en plein milieu d'un test parce qu'il y avait un tout petit peu de pluie verglaçante. Est-ce que je peux juste te dire que je crains le jour, dans un an, parce que dans un an, ça va être en fonction, notamment dans l'ouest de l'île, où les gens vont être perchés 30 mètres au-dessus de l'autoroute 40, il va y avoir un petit peu de grésil, parce que ça c'est pas été construit ici. On n'est pas allé avec Alstom, on n'est pas allé avec Bombardier. Non, non. On est allé au plus cheap. Hein, on est allé avec une compagnie en Inde qui, à ma connaissance, n'a pas souvent des tempêtes hivernales. Il n'y a pas de conducteur à bord de ces trucs-là. Et ça, c'est encore une fois les génies à la Caisse de dépôt et de placement. Et ça, c'est des accidents et des trucs lors des tests, là. C'est en train de se produire là. Alors moi, je me dis, quand je m'excuse, le lien peut paraître tenu, mais à mon sens, il y a un lien. La Caisse de dépôt et de placement est une behemoth qui gère énormément d'argent, qui prend des décisions avec la Caisse de dépôt et de placement, infra et ainsi de suite, qui sont en train de bâtir et de faire des choses où, j'aime bien ton terme, Richard, il n'y a pas de reddition de compte.
Mais non.
Il n'y a pas de l'obligation de dire, ben, voici ce qu'on fait avec votre argent et notre gestion. Et c'est une catastrophe ce qui s'est passé. Pour résoudre 200 millions, c'est une erreur d'arrondi à la fin d'une année fiscale. C'est 200 millions que
des
médecins.
C'est pas seulement sous ce gouvernement-là. Là. Souviens-toi, les gonzillions de dollars qu'on a perdus dans le papier commercial. lorsque Paul-Henri Rousseau dirigeait la Caisse de dépôt.
C'était des papiers commerciaux adossé aux actifs, asset backed commercial papers. Hey, il y a un gars qui s'appelle Steven Jaruzelski, il a plus de 90 ans aujourd'hui, un des grands de l'investissement du Québec. Et c'est un gars mécène aujourd'hui, il travaille encore, mais c'est un gars extraordinaire. Et à l'époque, on lui a dit, est-ce que tu avais investi là-dedans? Il dit non. Et on lui a demandé pourquoi. Il dit, parce que je comprenais pas ce qu'ils essayaient de me dire. Puis ça, c'est un gars qui gérait des milliards de vrai argent. Il dit, moi, je posais des questions comme, quand tu me dis asset backed, il dit, tu me vends ce papier-là, tu me dis qu'il y a un léger pourcentage de plus pour mon investissement, mais que je suis supposé d'aller saisir le char du gars qui a acheté. Ça n'avait aucun bon
sens. C'était tellement compliqué. Il y a des experts qui comprenaient rien là-dedans. Mais tu as tout à fait raison, hein, parce qu'avec le ministre Fitzgibbon, ces temps-ci, quand on pose des questions, quand on ose émettre des critiques, c'est ferme-la ta gueule. C'est comme ça qu'il fonctionne. Merci beaucoup, Tom Mulcair. À demain. Salut. Alors, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée, il écrit dans Le Devoir, mais il y a aussi son blog excellent. Et si vous voulez écouter son super balado, je l'écoute régulièrement. Je suis abonné depuis des années. Il revient sur les manchettes de l'actualité. Il revient aussi sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur laboîtealisée.com.